Il y a ce phénomène psychologique fascinant qui se produit quand on entend les mêmes mots encore et encore depuis l'enfance. On appelle ça la satiété sémantique.
Ah oui, le fameux bruit de fond.
Voilà, exactement. À force d'être répétés, les mots perdent tout leur sens originel. Ça devient juste une berceuse familière. Et c'est inoffensif jusqu'à ce qu'on réalise que ce qu'on a transformé en berceuse rassurante était à l'origine un manifeste hyper radical, presque dangereux pour l'ordre établi. Je suis ravie d'explorer ça aujourd'hui.
C'est tout le piège de la familiarité, en fait. On polit les angles d'un texte ancien pour qu'il s'intègre bien confortablement dans notre culture moderne, et on finit par en oublier totalement la charge explosive. Je suis vraiment ravie d'être là pour en parler.
Et c'est exactement ce qu'on va déterrer aujourd'hui dans cette nouvelle exploration. On va analyser une section très spécifique d'un texte antique que tout le monde connaît de nom, les chapitres 6 à 8 de l'Évangile selon Matthieu, en se basant sur les excellentes notes du chercheur Craig Kinner.
Des notes magistrales, oui.
Ouais. Et attention, pour ceux qui nous écoutent, oubliez tout ce qui ressemble à un sermon religieux, c'est pas du tout l'objectif ici.
Non, vraiment pas.
L'idée, c'est plutôt de chausser nos lunettes d'historien, d'économiste de l'Antiquité. Parce que quand on replace ces passages ultra connus, genre le Notre Père ou la Règle d'Or, dans leur vrai contexte, on découvre des discussions sur des montages financiers douteux, des classes sociales, de l'anxiété économique. Ok, décortiquons cela parce que je suis vraiment impatiente.
Allons-y. Le décalage entre notre perception aujourd'hui et la réalité du premier siècle, il est immense. Il faut d'abord comprendre comment l'auteur Matthieu construit son récit. Contrairement à Luc, par exemple, il ne jette pas ses idées au hasard.
Il est plus organisé.
Ouais, il est connu pour regrouper les enseignements de Jésus de manière très thématique. Et la section qui nous intéresse, elle s'ouvre sur une attaque frontale contre l'hypocrisie religieuse. Il cible la charité, le jeûne, la prière.
Tous les piliers, quoi.
Voilà. En insistant lourdement sur le fait que ces actions doivent être faites en secret. C'est un appel à se détacher complètement du regard social.
Et au cœur de cette exigence d'authenticité, on trouve la fameuse prière que des milliards de personnes connaissent, le fameux « Notre Père ». Mais attendez, Jésus n'a pas inventé cette prière de toute pièce, si ? Les prières de l'époque ressemblaient déjà à ça, non ?
Ah bah tout à fait, il s'inscrit dans une tradition bien précise. Par exemple, il y a une prière juive très ancienne, le Kaddish, qui commence par des mots hyper similaires, du genre « que son grand nom soit exalté et sanctifié ». Donc c'était un format familier pour ses disciples.
D'accord.
Et même l'expression « notre père », c'était pas du tout étranger au judaïsme de l'Antiquité. La figure du père, à l'époque, ça représentait le protecteur ultime, celui sur qui on peut compter, qui pourvoit aux besoins, mais avec une autorité bienveillante.
Mais du coup, si appeler Dieu « père », c'était déjà courant, pourquoi est-ce que cette prière-là a causé un tel choc culturel ?
La différence, elle réside dans le niveau d'intimité revendiqué. Dans la tradition juive, on disait « notre père », de manière très collective, majestueuse. Jésus, lui, il introduit l'usage de « mon père », ou il utilise le terme araméen « Abba ».
Abba.
Oui. Et ça, dans une prière formelle, c'était une rupture colossale. C'était un titre de respect, bien sûr, mais c'était réservé au cercle familial très restreint, une affection intense.
Pour faire une analogie pour notre public, c'est un peu comme si, au lieu d'envoyer une lettre hyper formelle, avec accusé de réception au PDG d'une multinationale pour demander une faveur, on envoyait juste un texto à un parent de confiance qui connaît déjà nos besoins. On passe d'une bureaucratie cosmique à une conversation de cuisine, en fait.
C'est une excellente analogie. Mais attention, cette proximité, elle annule pas du tout la hiérarchie céleste, hein. La structure linguistique du texte original en grec le montre très bien d'ailleurs.
Ah bon, hein ? Comment ça ?
Dans les premières phrases, toute la syntaxe est faite pour mettre l'accent sur le pronom « toi ». Ton nom, ton royaume, ta volonté. On place vraiment l'agenda divin et mondial bien avant les besoins personnels. Le « toi » avant le « nous ».
Ce qui rend la transition d'après encore plus brutale. Parce qu'on passe des idéaux célestes à un truc hyper terre-à-terre. Donne-nous notre pain quotidien. J'ai souvent entendu dire que ce pain, c'était une métaphore spirituelle, la manne eschatologique, le pain du paradis pour le futur, c'est ça ?
Alors c'est une interprétation qui a émergé plus tard chez certains théologiens. Mais si on se place du point de vue d'un paysan galiléen du 1er siècle, la réponse est non, absolument non.
D'accord, c'était littéral.
Complètement. Il faut imaginer la Méditerranée antique. 90 à 90% de la population, c'était des paysans ruraux. Ils vivaient dans une pauvreté extrême. Demander le pain quotidien, c'était une question de survie immédiate. Ça rappelle la dépendance d'Israël avec la manne dans le désert, jour après jour.
Une précarité absolue donc, hein. Ce qui m'amène au deuxième point très terre-à-terre, les dettes. La prière dit « pardonne-nous nos dettes ». On traduit souvent par « offense » ou « péché » aujourd'hui, mais historiquement, c'était de l'argent réel.
De l'argent sonnant et trébuchant. Les paysans empruntaient constamment pour acheter des semences après une mauvaise saison, et certains prêteurs, souvent non-juifs pour contourner les lois religieuses, exigeaient des taux d'intérêt frôlant les 50%.
50%? Mais c'est mathématiquement impossible à rembourser.
C'était un fardeau d'endettement systémique qui écrasait totalement les ruraux.
Mais attendez, il me semble qu'il y avait une loi ancienne, l'année du Jubilé, où toutes les dettes entre juifs devaient être annulées tous les 7 ans, non? Ça devait bloquer les prêteurs, ça.
Ah, bah ils détestaient ça. Tellement qu'ils arrêtaient de prêter de l'argent à l'approche de la 7e année, par peur de ne pas être remboursés. Donc le système de crédit était bloqué et les paysans risquaient la famine.
Et c'est là qu'intervient le fameux Prosboul. J'ai lu ça dans les notes, c'est fascinant. C'est une pure faille juridique inventée par les chefs religieux, c'est ça?
Exactement. Le prêteur donnait sa créance au temple ou au tribunal. Et comme le jubilé n'annulait pas les dettes envers les institutions publiques...
La dette survivait. C'est l'équivalent antique de créer une société écran dans un paradis fiscal.
C'est tout à fait ça. Des montages financiers complexes. Donc quand Jésus dit de pardonner les dettes, il frappe au cœur de ce système d'exploitation économique. C'était un impact économique massif, pas juste moral.
Le concret et le spirituel sont complètement imbriqués. Et cette pression pour la survie, ça explique peut-être la phrase « ne nous soumets pas à la tentation ou à l'épreuve ». Pourquoi un Dieu Abba nous tendrait un piège?
Oui, le but, c'est pas d'éviter magiquement les épreuves. Le mot grec parle plutôt d'un test difficile. Comme pour Jésus à Gethsémané, l'idée c'est de réussir le test face au mal, ou plutôt face au malin.
Le malin, ouais. La dimension surnaturelle du mal, qu'on a un peu perdue en Occident aujourd'hui.
Oui, alors que c'est reconnu dans plein d'autres cultures. C'est une force active.
Mais il y a un mystère textuel avec la fin de cette prière. Tous ceux qui la connaissent s'attendent à entendre « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Mais dans les Bibles les plus anciennes, ça n'y est pas. Pourquoi?
Ce qui est fascinant ici, c'est la critique textuelle. Le Nouveau Testament a été copié à la main par des moines pendant des siècles. Et dans la liturgie, on finissait toujours les prières par une doxologie, une louange, souvent inspirée des psaumes.
Donc un moine a cru à une erreur.
Exactement. Un copiste s'est dit « Oula, le scribe précédent a oublié la fin glorieuse », il l'a rajouté. C'est biblique dans l'esprit, mais ce n'était pas dans le texte original de Matthieu.
Le téléphone arabe à l'échelle des siècles. Des moines copistes qui corrigent le texte. C'est fou. Et toute cette dépendance, le pain, les dettes, ça mène naturellement à la critique du matérialisme que fait Jésus juste après. Il parle de mammon, l'argent personnifié.
Oui, il en fait une divinité rivale. Et c'est intéressant parce que Jésus critique la richesse, mais différemment des Esséniens, par exemple.
Les Esséniens, c'est ceux qui rejetaient toute propriété privée, c'est ça?
Voilà. Ils vivaient isolés. Jésus, lui, demande de vivre dans le monde, mais de prioriser les gens sur les biens. Mammon, c'est l'obsession de l'accumulation. D'ailleurs, Kinel, le chercheur dont on utilise les notes, pratique lui-même un jeûne d'un jour par semaine, non pas pour manipuler Dieu, mais comme simple dévotion pour se détacher de ce matérialisme.
Oui, j'avais noté cette anecdote. C'est une belle démarche personnelle. Et pour illustrer ça, Jésus utilise cette analogie de l'œil. L'œil simple contre le mauvais œil. Au début, j'ai eu du mal, mais en fait, c'est un idiome juif de l'époque, non?
C'est ça. L'œil simple, c'est la personne généreuse. Le mauvais œil, c'est l'avare.
C'est comme une maladie de la vue. La cupidité agit comme une cataracte qui brouille littéralement notre perception des autres. On ne voit plus des humains, on voit des concurrents ou des outils.
Et le symptôme principal de cette cataracte, c'est l'anxiété chronique, l'anxiété matérielle. Jésus rappelle que s'inquiéter ne peut pas rallonger la vie d'une seule coudée.
La coudée, oui, l'unité de mesure de l'époque.
Et son antidote est superbe. Regardez les oiseaux du ciel ou les lys des champs. C'est pas juste de la poésie, ça remonte au roi Salomon. C'est utiliser la biologie pour en tirer des leçons éthiques.
La biologie comme remède à l'anxiété. J'adore l'idée. Et la façon dont on voit les autres, ça détermine comment on les juge. Ce qui nous amène à l'image probablement la plus drôle et absurde de ce texte. Le chirurgien oculaire avec une poutre dans l'œil.
Ah oui, c'est volontairement grotesque.
C'est du grand comique. Quelqu'un qui a une énorme poutre de charpente plantée dans l'œil et qui dit à son ami « Hé, bouge pas, je vais t'enlever la petite poussière que t'as là ». C'est un concept qu'on retrouve dans le Talmud aussi, d'ailleurs.
Absolument. C'est pour détruire l'hypocrisie du jugement moral. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Juste après, il dit de ne pas jeter des perles aux pourceaux.
Donc, savoir avec qui débattre.
Voilà. Il est futile d'imposer une vérité intime ou une correction à quelqu'un qui refuse activement d'écouter ou qui est hostile. C'est du réalisme relationnel.
Chamaï, elle est géniale.
Ah, la fameuse histoire sur un pied. Allez-y.
Alors, c'est un non-juif qui va voir le rabbin Chamaï, un homme très strict, et qu'il provoque en lui disant « Enseigne-moi toute la Torah le temps que je tienne sur un seul pied ». Chamaï, furieux, le chasse avec un bâton.
On peut le comprendre.
Grave. Mais l'homme va voir Hillel, qui est plus patient. Il se met sur un pied et Hillel lui dit, je cite, « Ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. C'est toute la Torah. Va et étudie. » C'est brillant.
C'est la grande tradition éthique universelle. On retrouve ça chez Confucius, chez le philosophe Sénèque. Jésus s'inscrit là-dedans en la mettant au centre de tout.
Mais ce qui change, c'est son autorité à lui. Jésus conclut pas en citant 3000 rabbins avant lui. Il dit juste « moi je vous dis », une autorité verbale directe.
Qui va immédiatement se traduire par une autorité physique, les miracles. Les chapitres suivants sont structurés avec 10 miracles. Probablement un écho aux 10 plaies d'Égypte de Moïse, mais pour restaurer, pas pour détruire.
Et c'était pas juste des symboles spirituels pour eux?
Non, dans l'Antiquité c'était de la restauration physique et holistique. D'ailleurs, Kinner raconte dans ses notes une anecdote personnelle frappante, une prière qui a accompagné la guérison inexpliquée d'une femme atteinte d'une grave maladie pulmonaire de nos jours. Pour eux, l'acte physique et spirituel sont liés.
Et l'exemple le plus fort de ça, c'est le lépreux. Marginalisé, forcé de crier impur à cause du Lévitique 13, l'intouchable par excellence.
Et qu'est fait Jésus? Il brise le tabou. Au lieu d'être contaminé par l'impureté du lépreux,
ce qui était la règle normalement,
c'est le toucher de Jésus qui absorbe l'impureté et transmet la propreté. C'est l'empathie absolue. Et fait intéressant, il lui dit de garder le silence après.
Pourquoi ?
Pour éviter les foules ingérables qui voudraient juste du spectacle et pour respecter la loi de Moïse qui exigeait que le lépreux aille d'abord voir le prêtre pour valider sa guérison.
C'est très pragmatique. Mais du coup, avec tous ces faiseurs de miracles, comment on teste les prophètes ? Jésus parle des loups déguisés en brebis, une image d'Ésope d'ailleurs.
Oui, et un texte chrétien très ancien, la Didachée, donnez la méthode, jugez-les à leurs actes. Si un prophète demande de l'argent pour lui-même, c'est un faux prophète. Fin de l'histoire.
Maman, l'argent, toujours l'argent, ça boucle la boucle. Pour synthétiser pour notre public, on a exploré un texte où un enseignant pousse des lois existantes à l'extrême. Une intimité familiale avec Dieu, une générosité totale, le refus de l'anxiété matérielle et embrasser littéralement les marginaux de la société.
Et ça me laisse sur une réflexion finale un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si on prend l'image du chirurgien oculaire et du mauvais œil aveuglé par maman, comment ça remettrait en question nos sociétés modernes? On vit dans une culture où l'accumulation de richesses et le fait de juger les autres publiquement sur les réseaux sociaux sont vus comme des signes de succès.
C'est le modèle économique d'Internet, littéralement.
Exactement. Si on appliquait vraiment cette grille de lecture en refusant l'anxiété du lendemain et en cherchant la restauration holistique des marginalisés, est-ce que nos structures économiques et sociales actuelles ne s'effondreraient pas tout simplement pour laisser place à quelque chose de totalement inédit?
C'est la grande question. Une belle claque pour un texte qu'on pensait tous connaître par cœur. Merci de nous avoir aidés à dépoussiérer tout ça. Et à tous ceux qui nous écoutent, on vous dit à bientôt pour une prochaine exploration.